Chapitre 17. Les quatre champions. Harry resta immobile, conscient que toutes les têtes s'étaient à présent tournées vers lui. Il était comme assommé, pétrifié. Il était en train de rêver. Ou bien il avait mal entendu. Il n'y eut pas le moindre applaudissement. Une sorte de bourdonnement, comme celui d'un essaim d'abeilles en colère, montait peu à peu dans la grande salle. Certains s'étaient levés pour mieux voir Harry, figé sur sa chaise. À la grande table, le professeur McGonagall se dressa d'un bond et se précipita pour murmurer quelque chose à l'oreille du professeur Dumbledore, qui fronça légèrement les sourcils. Harry se tourna vers Ron et Hermione. Derrière eux, il vit les élèves assis à la longue table de Gryffondor le regarder bouche bée.
« Je n'ai pas mis mon nom dans la coupe, » dit Harry avec un air de totale incompréhension. « J'ai rien fait, vous le savez bien. »
Ron et Hermione le regardèrent avec la même expression ahurie. À la grande table, le professeur Dumbledore adressa un signe de tête approbateur au professeur McGonagall.
« Harry Potter !» répéta-t-il. « Harry, venez ici, s'il vous plaît. »«
Vas-y !»
murmura Hermione en le poussant avec douceur. Harry se leva, se prit les pieds dans l'ourlet de sa robe de sorcier et trébucha légèrement. Puis il s'avança entre les tables de Gryffondor et de Poufsouffle. Il eut l'impression de parcourir une distance interminable. La table des professeurs lui paraissait inaccessible et il sentait des centaines de regards posés sur lui comme des faisceaux de projecteurs. Le bourdonnement augmenta d'intensité. Il lui sembla avoir marché une heure lorsqu'il se retrouva enfin devant Dumbledore, les yeux de tous les professeurs fixés sur lui.
« Dans la pièce voisine, Harry !»
dit Dumbledore sans le moindre sourire. Harry longea la table. Hagrid était assis tout au bout et, contrairement à son habitude, il ne lui adressa aucun signe, ni geste de la main, ni clin d'œil. Il avait l'air abasourdi et se contenta, comme les autres, de le regarder passer. Harry ouvrit la porte et se retrouva dans une pièce beaucoup plus petite, dont les murs étaient recouverts de portraits représentant des sorcières et des sorciers. Face à lui, un magnifique feu de bois ronflait dans la cheminée. Les visages peints sur les tableaux se tournèrent vers lui pour le regarder. Il vit une vieille sorcière desséchée sortir de son cadre et se rendre dans celui d'à côté où elle murmura quelque chose à l'oreille d'un sorcier avec une grosse moustache de morse. Victor Krum, Cédric Diggory et Fleur de la Cour s'étaient regroupés autour du feu. Leur silhouette qui se détachait contre les flammes avait quelque chose d'étrangement impressionnant. Krum, le dos voûté, l'air maussade, était appuyé contre le manteau de la cheminée, légèrement à l'écart des deux autres. Cédric, les mains derrière le dos, contemplait le feu. Fleur de la Cour se retourna lorsqu'Harry entra et rejeta en arrière ses cheveux blonds argentés.
« Bon, alors qu'est-ce qui se passe maintenant ?» dit-elle. « Il faut revenir dans la salle ou quoi ?»
Apparemment, elle pensait qu'il était venu leur transmettre un message. Harry ne savait comment expliquer ce qui venait de se produire. Il se contenta de rester là, immobile, à regarder les trois champions. Il fut alors frappé de voir qu'ils étaient tous les trois très grands. Il y eut derrière eux un bruit de pas précipité et Ludo Verpé entra dans la pièce. Prenant Harry par le bras, il l'entraîna vers la cheminée.
« Extraordinaire !»
murmura-t-il en lui pressant le bras.
« Absolument extraordinaire, messieurs, mademoiselles !» ajouta-t-il à l'adresse des trois autres. « Permettez-moi de vous présenter, aussi incroyable que cela puisse paraître, le quatrième champion du tournoi des trois sorciers !»
Victor Krum se redressa. Son visage renfrogné s'assombrit encore davantage, tandis qu'il toisait Harry. Cédric paraissait stupéfait. Il regarda alternativement Verpé et Harry, comme s'il avait mal entendu. Fleur de la Cour, en revanche, rejeta à nouveau ses cheveux en arrière et sourit.
« Toujours le mot pour rire, mon cher monsieur Verpé, » dit-elle. « C'est ce qu'on appelle l'humour britannique, j'imagine. »«
Pour rire ?» répéta Verpé déconcerté. « Mais non, pas du tout. Le nom de Harry vient de sortir de la coupe de feu. »
Krum fronça légèrement ses épais sourcils. Cédric avait toujours une expression de stupéfaction polie. Fleur eut un air choqué.
« Ah, voyons, t'es insensé, il y a une erreur. » « Qu'est-ce que c'est que cette organisation ?» dit-elle à Verpé d'un ton supérieur. « C'est impossible, ce garçon est beaucoup trop jeune. »«
Nous sommes tous très étonnés.
répondit Verpé en se caressant le menton et en souriant à Harry. « Mais comme vous le savez, la règle de l'âge minimum n'a été instituée que cette année par mesure de sécurité. Et comme son nom est sorti de la coupe, je pense qu'à ce stade, il n'est plus possible de reculer. C'est dans le règlement, on est obligé de... Bah, Harry n'a plus qu'à faire de son mieux pour... Voilà. »
La porte s'ouvrit à nouveau derrière eux et plusieurs personnes entrèrent dans la pièce. Le professeur Dumbledore, suivi de près par M. Croupton, puis le professeur Karkaroff, Mme Maxime, le professeur McGonagall et enfin le professeur Rogue. Harry eut le temps d'entendre le brouhaha qui résonnait dans la grande salle avant que le professeur McGonagall referme la porte. « Madame Maxime !» s'exclama aussitôt Fleur en se précipitant vers sa directrice. « Ils viennent de nous dire que ce petit garçon allait participer au tournoi, vous vous rendez compte? C'est insensé !» Malgré son état de choc, Harry sentit monter en lui une bouffée de colère. « Un petit garçon !» Madame Maxime s'était redressée de toute sa taille immense. Le sommet de sa tête frôla le lustre garni de chandelles qui était suspendu au plafond et sa gigantesque poitrine recouverte de satin noir enfla démesurément.
« Dumbledore, pouvez-vous nous dire ce que signifie cette plaisanterie ?» demanda-t-elle d'un ton impérieux.
« J'aimerais également le savoir, Dumbledore. » ajouta le professeur Karkaroff. Il avait un sourire figé et ses yeux bleus ressemblaient à deux glaçons.
« Deux champions des Poudlard. Je ne me souviens pas d'avoir entendu dire que l'école d'accueil avait le droit de faire concourir des champions. Ou bien n'aurais-je pas lu le règlement avec suffisamment d'attention ?»
Il eut un petit rire sarcastique.
« Tout cela me paraît absolument impossible, » dit Madame Maxime, qui avait posé sur l'épaule de Fleur une de ses énormes mains ornées de superbes opales.
« Poitlard ne peut pas avoir de champion, ça sera beaucoup trop injuste, non ?»«
Nous pensions que votre limite d'âge suffirait à éloigner les candidats trop jeunes, Dumbledore, »
dit Karkaroff avec le même sourire figé, mais le regard plus glacial que jamais.
« Sinon, nous aurions bien entendu sélectionner un plus grand nombre de candidats dans nos propres écoles. »«
Potter est le seul responsable de cette situation, Karkaroff, »
dit Rogue à voix basse. Ses yeux étincelaient de méchanceté.
Dumbledore ne doit pas être tenu pour responsable de l'obstination de Potter à violer les règlements. Depuis qu'il est entré dans cette école, il a consacré la plus grande partie de son temps à dépasser les limites. Il vient d'en franchir une de plus.
Merci, Severus, dit Dumbledore d'un ton ferme. Rogue se tut, mais ses yeux continuaient à flamboyer de hargne derrière les cheveux noirs et graisseux qui lui tombaient sur le front. À présent, le professeur Dumbledore s'était tourné vers Harry, qui soutint son regard en essayant de déchiffrer ce que ses yeux exprimaient derrière ses lunettes en demi-lune.
« Harry, est-ce que tu as mis ton nom dans la coupe de feu ?»
demanda Dumbledore d'un ton très calme.
« Non, »
répondit Harry. Il sentait les regards posés sur lui. Rogue laissa échapper une expression d'incrédulité mêlée d'agacement.
« As-tu demandé à un élève plus âgé de déposer ton nom à ta place dans la coupe ?»
interrogea le professeur Dumbledore sans prêter attention à Rogue.
« Non !»
répondit Harry avec véhémence.
« Enfin, voyons, c'est insensé, hein, Dumbledore, ce garçon ment !»
s'écria Madame Maxime. Rogue à présent hochait la tête et lèvres pincées.
« Il n'aurait pas pu franchir la limite d'âge !» dit sèchement le professeur McGonagall. « Nous sommes tous d'accord là-dessus. »«
Dumbledore a dû commettre une erreur en dessinant cette ligne, »
répliqua Madame Maxime avec un haussement d'épaule.
« C'est possible, bien sûr, »
admit poliment Dumbledore.
« Dumbledore, vous savez parfaitement que vous n'avez commis aucune erreur, » s'indigna le professeur McGonagall. « Quelle absurdité, vraiment, Harry n'aurait pas pu franchir cette ligne lui-même, et comme le professeur Dumbledore le croit quand il dit qu'il n'a pas demandé à un élève plus âgé de le faire pour lui, je suis convaincu que cela devrait nous suffire. » Elle lança un regard furieux au professeur Rogue.
« Monsieur Croupton, Monsieur Verpé, »
dit Karkaroff, d'une voix à nouveau honteuse,
« vous êtes nos juges impartiaux. Vous reconnaîtrez sûrement avec nous que cette situation n'est pas du tout conforme au règlement. »
Verpé épongea avec un mouchoir son visage rond et juvénile et regarda M. Croupton qui se tenait caché dans l'ombre, à l'écart du cercle de lumière que diffusaient les flammes de la cheminée. Il avait un air un peu inquiétant et paraissait plus âgé dans la demi-obscurité qui donnait à son visage l'apparence d'une tête de mort. Lorsqu'il prit la parole, ce fut du même ton cassant qu'à l'ordinaire.
« Nous devons respecter les règles, »
dit-il. Et les règles indiquent clairement que les candidats dont les noms sortent de la coupe de feu doivent participer au tournoi.
Vous pouvez le croire, Barty connaît le règlement par cœur,
dit Verpet le visage rayonnant en se tournant vers Karkaroff et Madame Maxime comme si le débat était clos.
J'insiste pour qu'on soumette à nouveau la candidature de mes autres élèves,
dit Karkaroff qui avait abandonné son ton doucereux. Il ne souriait plus du tout et une horrible expression était apparue sur son visage.
Vous allez remettre en place la coupe de feu et nous continuerons à y déposer des noms jusqu'à ce que chaque école ait deux champions. Ce n'est que justice, Dumbledore.
Voyons, Karkaroff, vous savez bien que c'est impossible, dit Verpet. La coupe vient de s'éteindre, elle ne se rallumera pas avant le début du prochain tournoi.
Auquel Dumbledore ne participera certainement pas, s'emporta Karkaroff. Après toutes nos réunions, toutes nos négociations, tous nos compromis, je ne m'attendais pas à voir se produire une chose pareille. Je me demande s'il ne se ferait pas mieux de partir tout de suite.
Des menaces en l'air, Karkaroff, grogna une voix près de la porte. Vous ne pouvez pas retirer votre champion maintenant, il doit concourir. Tous doivent concourir, ils sont liés par un contrat magique, comme l'a dit Dumbledore. Pratique, non ?
Maugret venait d'entrer dans la pièce. Il s'avança vers la cheminée de sa démarche claudiquante, ponctuée par le claquement de sa jambe de bois.
« Pratique ! » s'étonna Karkaroff. « Je ne comprends pas du tout ce que vous voulez dire, Maugret. »
Il s'efforçait d'adopter un ton dédaigneux, comme si ce que disait Maugret ne méritait pas son attention. Mais Harry remarqua que ses mains le trahissaient. Il avait serré les poings.
« Vraiment ?»
reprit Maugret avec le plus grand calme.
« C'est pourtant très simple, Karkaroff. Quelqu'un a mis le nom de Harry dans cette coupe en sachant très bien qu'il serait obligé de concourir s'il était choisi.
De toute évidence, c'est peut-être quelqu'un qui voulait doubler le chance de Potlar, hein ?
Dit Madame Maxime. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Madame Maxime,
dit Karkaroff en s'inclinant devant elle.
Je vais porter plainte auprès du ministère de la Magie et auprès de la Confédération internationale des mages et sorciers.
S'il y a quelqu'un qui devrait se plaindre, c'est plutôt Potter,
rugit Maugret.
« Mais c'est bizarre. Il est le seul que je n'entende pas parler. »«
Enfin, c'est insensé. De quoi se plaindrait-il ? » s'écria Fleur de la Cour en tapant du pied. « Il a la chance de pouvoir concourir. Pendant des semaines, nous avons tous espéré qu'on nous choisisse pour être l'honneur de notre école et pouvoir en plus gagner 1000 galions. Et il y en a qui seraient prêts à mourir pour ça. »«
Quelqu'un espère peut-être que Potter va en mourir, en effet, »
dit Maugret d'une voix qui n'était plus qu'un grondement. Un silence tendu suivit ses paroles. Ludo Verpet, qui paraissait anxieux à présent, se mit à sautiller sur place.
« Maugret, mon vieux, qu'est-ce que tu nous racontes ?»«
Nous savons tous que le professeur Maugret considère qu'il a perdu sa matinée si à l'heure du déjeuner il n'a pas découvert au moins 6 complots pour le tuer, »
dit Karkaroff d'une voix forte.
« Et apparemment, il apprend également à ses élèves à redouter les tentatives d'assassinat. Je ne suis pas sûr que ce soit une grande qualité pour un professeur de défense contre les forces du mal, Dumbledore. Mais il faut croire que vous avez vos raisons.
« Alors, d'après vous, c'est moi qui imagine tout ça ?»
grogna Maugret.
« J'ai des visions, hein ? Vous savez bien qu'il fallait un sorcier expérimenté pour mettre le nom de ce garçon dans la coupe. »«
Quelle preuve pouvez-vous nous apporter de ce que vous avancez ?»
demanda Madame Maxime avec un geste dédaigneux d'une de ses immenses mains.
« La personne qui a fait ça a réussi à tromper la vigilance d'un objet d'une grande force magique, » répondit Maugret. « Il faudrait être capable de jeter un très puissant sortilège des confusions pour embrouiller la coupe de feu au point de lui faire oublier que seules 3 écoles peuvent participer au tournoi. Je pense qu'on a dû soumettre la candidature de Potter sous le nom d'une 4e école. » pour faire croire qu'il était seul dans sa catégorie.
Vous semblez avoir beaucoup réfléchi à la question, Maugret,
fit remarquer Karkaroff d'un ton glacial.
C'est en effet une hypothèse très ingénieuse, mais je crois savoir qu'il y a quelque temps, vous vous êtes mis dans la tête que l'un de vos cadeaux d'anniversaire contenait un œuf de basilic, astucieusement déguisé, et que vous l'avez réduit en miettes avant de vous apercevoir qu'il s'agissait d'un réveil de voyage. Hein? « Vous comprendrez donc que l'on ne vous prenne pas entièrement au sérieux. »«
Certains profitent des occasions les plus anodines pour parvenir à leur fin. » répliqua Maugret d'une voix menaçante. « C'est mon travail de penser aux moyens qu'emploient les adeptes de la magie noire, Karkaroff. Vous devriez vous en souvenir. »«
Alasto,
dit Dumbledore d'un ton de reproche. Pendant un instant, Harry se demanda à qui il s'adressait, puis pour la première fois, il lui vint à l'esprit que Maugret ne pouvait être un prénom, ni Folleuil un nom de famille. Le professeur Maugret se tut, posant un regard satisfait sur Karkaroff, dont le visage était devenu écarlate.
« Comment cette situation a-t-elle été créée? Nous n'en savons rien !»
dit Dumbledore en s'adressant à l'ensemble des personnes présentes.
« Il me semble cependant que nous n'avons d'autre choix que d'accepter. Cédric et Harry ont été choisis tous les deux pour concourir dans le tournoi. C'est donc ce qu'ils vont faire.
Bah, « Enfin, Dumbledore !»«
Ma chère Madame Maxime, si vous avez une autre solution à nous proposer, je serai enchanté de l'entendre. »
Dumbledore attendit, mais Madame Maxime resta silencieuse, se contentant de lancer des regards noirs. Elle n'était d'ailleurs pas la seule. Rogue avait l'air furieux. Karkaroff était livide. Seul Verpé paraissait plutôt content.
« Bon, alors, on s'y met » dit-il avec un grand sourire en se frottant les mains. « Il faut qu'on donne leurs instructions aux champions, n'est-ce pas ? Marty, à vous l'honneur !»
Monsieur Croupton sembla émerger d'une profonde rêverie.
« Oui, » dit-il. « Les instructions, c'est ça, la première tâche. »
Il s'avança dans la lumière que diffusaient les flammes de la cheminée. Vu de près, Harry pensa qu'il avait l'air malade. Ses yeux étaient soulignés de grands cernes noirs et sa peau ridée avait un teint parcheminé qu'il ne lui avait pas vu le jour de la Coupe du Monde de Quidditch.
« La première tâche sera pour but de mettre votre audace à l'épreuve, » poursuivit-il en s'adressant à Harry, Cédric, Fleur et Krum. « Nous ne vous dirons donc pas à l'avance en quoi elle consistera. Le courage face à l'inconnu est une qualité très importante pour un sorcier, très importante. Cette première tâche se déroulera le 24 novembre devant les autres élèves et devant le jury. Les champions n'ont pas le droit de demander ou d'accepter une quelconque aide de leur professeur. Ils affronteront la première épreuve armés seulement de leur baguette magique. » Lorsque la première tâche sera terminée, des informations concernant la deuxième tâche leur seront communiquées. Compte tenu du temps et de l'énergie exigée par les diverses épreuves du tournoi, les champions seront dispensés de passer les examens de fin d'année.
Monsieur Croupton se tourna vers Dumbledore.
Je pense que c'est tout pour le moment, n'est-ce pas, Albus ?
Il me semble, oui, répondit Dumbledore qui regardait Monsieur Croupton d'un air un peu inquiet. « Vous êtes sûr que vous ne voulez pas coucher à Poudlard cette nuit, Marty ?»«
Non, Dumbledore, merci, je dois retourner au ministère. C'est une période très difficile, très chargée en ce moment. J'ai laissé le jeune Weasley s'occuper du département pendant mon absence. C'est un jeune homme très enthousiaste et même un peu trop, pour dire la vérité. »«
Vous prendrez bien un verre avec nous avant de partir, » proposa Dumbledore.
« Allons, Marty, faites donc comme moi, je reste. »
dit Verpé d'un ton jovial. « Tout se passe à Poudlard maintenant, c'est beaucoup plus excitant que de retourner au bureau. »«
Je ne crois pas, Ludo, » répliqua Croupton.
Il avait retrouvé le ton d'impatience qu'on lui connaissait.
« Professeur Karkaroff, Madame Maxime, un dernier verre avant d'aller se coucher. »
Mais Madame Maxime avait déjà pris Fleur par les épaules et l'emmenait d'un pas vif. Harry les entendit parler à toute allure, tandis qu'elle retournait vers la grande salle. Karkaroff fit signe à Krum, et tous deux sortirent à leur tour de la pièce, mais sans échanger un mot.
« Harry, Cédric, je vous suggère d'aller vous coucher, »
dit Dumbledore en leur adressant un sourire.
« Je suis sûr que vos camarades de Gryffondor et de Poufsouffle vous attendent pour fêter l'événement. » Et il serait vraiment trop dommage de les priver d'une si belle occasion de faire le plus de désordre et de bruit possible. »
Harry lança un coup d'œil à Cédric, qui approuva d'un signe de tête, et ils sortirent ensemble de la pièce. La grande salle était déserte à présent. La flamme des chandelles faiblissait, éclairant les sourires en dents de scie des citrouilles d'une lueur incertaine, inquiétant. « Alors, dit Cédric en esquissant un sourire, on va de nouveau jouer l'un contre l'autre ?»«
J'imagine. »
répondit Harry, incapable d'ajouter un mot. Il se sentait plongé dans un total désarroi, comme si quelque chose lui avait ravagé le cerveau. « Maintenant, dis-moi, » reprit Cédric alors qu'ils atteignaient le hall d'entrée qui n'était plus éclairé que par des torches en l'absence de la coupe de feu. « Comment as-tu fait pour mettre ton nom ?»«
Ce n'est pas moi qui l'ai mis, » répondit Harry en levant les yeux vers lui.
« Je n'ai pas mis mon nom dans la coupe. » J'ai dit la vérité.
Ah, d'accord, dit simplement Cédric. Bon, alors à demain.
Harry se rendit compte qu'il ne le croyait pas. Cédric se dirigea vers une porte située à droite de l'escalier de marbre. Harry resta là à l'écouter descendre les marches de pierre de l'autre côté de la porte. Puis, lentement, il monta dans les étages. Est-ce que quelqu'un allait le croire, en dehors de Ron et d'Hermione, ou bien seraient-ils tous persuadés que c'était lui qui avait déposé son nom dans la coupe? Qui pourrait penser qu'il était assez déraisonnable pour vouloir accomplir devant les centaines de personnes des tâches extrêmement périlleuses face à des concurrents qui avaient fait 3 années d'études de plus que lui? Il y avait pensé. C'était vrai. Il avait laissé son imagination vagabonder. Mais ce n'était qu'une plaisanterie, un rêve éveillé. Il n'avait jamais sérieusement envisagé de soumettre sa candidature. Mais quelqu'un d'autre l'avait envisagé à sa place. Quelqu'un avait voulu qu'il participe au tournoi et s'était arrangé pour que son nom soit choisi. Qui? Et pourquoi? Pour lui faire plaisir? Quelque chose lui disait que ce n'était sûrement pas le cas. Pour le ridiculiser, alors. Si c'était cela, il ne serait sans doute pas déçu. Mais pour le tuer, Maugret n'avait-il manifesté qu'une fois de plus son habituel délire de la persécution? Après tout, peut-être n'avait-on cherché qu'à lui faire une farce. Quelqu'un voulait-il vraiment sa mort? Harry connaissait la réponse à cette question. Oui, quelqu'un voulait sa mort. Quelqu'un voulait sa mort depuis qu'il avait l'âge de 1 an. Lord Voldemort. Mais comment Voldemort aurait-il pu s'y prendre pour que le nom de Harry soit déposé dans la coupe de feu? Voldemort était censé être très loin d'ici, dans un pays lointain, seul, caché, faible, privé de ses pouvoirs. Pourtant, dans le rêve que Harry avait fait juste avant d'être réveillé par cette douleur aiguë à sa cicatrice, Voldemort n'était pas seul. Il parlait à queue de verre, et tous deux projetaient de le tuer. Harry sursautant, se retrouvant devant la grosse dame. Il avait avancé machinalement sans se rendre compte qu'il était déjà arrivé. Il fut également surpris de voir que la grosse dame n'était pas seule dans son cadre. La sorcière desséchée qui s'était glissée dans le tableau voisin lorsqu'il avait rejoint les champions dans la petite pièce était à présent assise à côté d'elle avec un petit air satisfait. Elle avait dû se précipiter de tableau en tableau tout au long des portraits accrochés dans l'escalier pour arriver ici avant lui. Toutes deux le regardaient avec beaucoup d'intérêt.
« Eh bien, bien !» dit la grosse dame. « Violette m'a tout raconté. Alors, qui a été choisi comme champion de l'école ?»«
Faribault, » dit Harry d'un air sombre.
« Pas du tout, c'est très sérieux !» s'indigna la sorcière. « Non, Faribault, c'est simplement le mot de passe !» dit la grosse dame d'un ton apaisant, et le portrait pivota pour laisser Harry entrer dans la salle commune.
Le vacarme qui lui frappa les oreilles lorsque le tableau s'écarta faillit le faire tomber en arrière. Un instant plus tard, une 20aine de mains l'attrapaient par les épaules et l'entraînaient à l'intérieur de la salle commune où tous les élèves de Gryffondor l'accueillirent avec des cris, des applaudissements et des sifflets enthousiastes.
« Tu aurais dû nous le dire que tu avais trouvé le moyen de mettre ton nom dans la coupe !» s'exclama Fred. Il avait l'air à la fois un peu agacé et profondément impressionné.
« Comment as-tu réussi à faire ça sans te retrouver avec une barbe ?»« Remarquable !» rugit Georges. « Je n'ai rien fait du tout !» répondit Harry. « Je ne sais pas ce qui... »
Mais Angelina s'était précipitée sur lui. « Même si ce n'est pas moi, au moins c'est un Gryffondor qui a été choisi, » dit-elle. « Diggory nous a peut-être battus au Quidditch, mais tu vas pouvoir prendre ta revanche !» s'écria Cathy Bell, qui faisait également partie de l'équipe de Gryffondor. « On a de bonnes choses à manger, Harry. Viens, je n'ai pas faim !» J'ai assez mangé pendant le festin. » Mais personne ne voulait l'entendre lorsqu'il disait qu'il n'avait pas faim, ou que ce n'était pas lui qui avait déposé son nom dans la coupe de feu, et personne n'avait remarqué qu'il n'était pas du tout d'humeur à faire la fête. Lee Jordan avait déniché quelque part une bannière de Gryffondor et il insista pour en draper Harry comme d'une cape. Harry ne pouvait s'échapper. Chaque fois qu'il essayait de se glisser vers l'escalier qui menait au dortoir, la foule de ses camarades se resserrait autour de lui, le forçant à boire une nouvelle bière au beurre, lui remplissant les mains de chips et de cacahuètes. Tout le monde voulait savoir comment il avait réussi ce tour de force, comment il était parvenu à franchir la limite d'âge de Dumbledore et à déposer son nom dans la coupe.
« Ce n'est pas moi » répétait-il inlassablement. « Je ne sais pas ce qui s'est passé là !»
Mais il aurait pu tout aussi bien se taire, car personne ne prêtait attention à ce qu'il disait. « Je suis fatigué !» dit-il enfin au bout d'une demi-heure. « Non, vraiment, Georges, je vais me coucher maintenant. » Ce qu'il voulait avant tout, c'était retrouver Ron et Hermione, pour avoir une conversation un peu plus raisonnable, mais aucun des deux n'était présent dans la salle commune. Il répéta avec insistance qu'il avait besoin de dormir, et après avoir failli piétiner les deux frères Grivet qui essayaient de le retenir au pied de l'escalier, il parvint enfin à se dégager de la foule et à monter en courant dans son dortoir. À son grand soulagement, il trouva Ron allongé tout habillé sur son lit. Personne d'autre n'était encore remonté dans le dortoir. Ron leva la tête lorsqu'Harry referma la porte derrière lui. « Où étais-tu ? » demanda Harry.
« Ah tiens, salut !» dit Ron. Il souriait, mais son sourire paraissait étrange, crispé.
Harry s'aperçut soudain qu'il portait encore la bannière de Gryffondor dont Lee Jordan l'avait enveloppée. Il voulut l'enlever, mais les nœuds étaient très serrés. Ron resta allongé sur le lit et le regarda sans bouger, tandis qu'il essayait de se dépêtrer de la bannière. « Alors ?» dit-il lorsque Harry eut enfin réussi à s'en débarrasser. « Félicitations !»«
Comment ça, félicitations ?»
s'étonna Harry. Il y avait décidément quelque chose de bizarre dans le sourire de Ron. On aurait plutôt dit une grimace.
« Personne n'a réussi à franchir la limite d'âge, » dit-il. « Même pas Fred et Georges. Comment as-tu fait ? Tu t'es servi de la cape d'invisibilité ?»«
Ah, Ron, la cape ne m'aurait pas permis de passer la ligne, » répondit lentement Harry.
« Ah bon ?» dit Ron. « Pensais que tu aurais peut-être pu me le dire si tu avais utilisé la cape, parce qu'elle est suffisamment grande pour nous cacher tous les deux, non ? Mais tu as trouvé un autre moyen, on dirait.
« Écoute, dit Harry, je n'ai pas déposé mon nom dans cette coupe. Quelqu'un a dû le faire à ma place. » Ron haussa les sourcils.
« Et pourquoi, d'après toi ?»«
Mais je ne sais pas, » répondit Harry. Il pensait qu'il aurait eu l'air trop mélodramatique s'il avait répondu « pour me tuer ». Ron levait si haut les sourcils qu'ils disparaissaient presque sous la frange de ses cheveux.
« Tu sais, à moi, tu peux dire la vérité, » reprit-il,
« si tu veux pas que les autres le sachent.
« D'accord, mais je vois pas pourquoi tu te donnes la peine de me mentir. Hein? Finalement, tu n'as eu aucun ennui, non ? Cette amie de la grosse dame, Violette, nous a déjà tout raconté. Elle nous a dit que Dumbledore avait accepté ta participation. 1000 galions de prime, hein ? Et en plus, tu n'auras même pas besoin de passer les examens de fin d'année.
« Je n'ai pas mis mon nom dans cette coupe !»
répéta Harry, qui commençait à sentir la colère monter en lui.
« C'est ça !» lança Ron du même ton sceptique que Cédric. « Mais ce matin, tu as dit que si tu avais voulu le faire, tu serais descendu la nuit pour que personne ne te voie. Je suis quand même pas complètement idiot !»«
Tu sais très bien faire semblant, en tout cas !» répliqua sèchement Harry.
« Ah ouais ?» dit Ron. Cette fois, il n'y avait plus trace de sourire, même forcé sur son visage.
« Tu ferais peut-être bien d'aller te coucher, Harry. » « J'imagine que tu devras te lever tôt demain pour une séance de photos ou quelque chose dans ce genre-là. »
Et il tira d'un coup sec les rideaux de son baldaquin, debout près de la porte. Harry contempla les rideaux de velours rouge sombre. Il venait de se refermer sur l'une des rares personnes à qui il pensait pouvoir dire la vérité, en étant sûr d'être cru.